En abordant la question de l'oraison comme une rencontre, parce que j'ai déjà un petit peu touché, vivre l'oraison d'abord comme une rencontre, comme un rendez-vous avec une personne donc, qui nous attend, et donc qu'il nous faut connaître. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on sait que les amours idolâtriques pour tel ou tel chanteur ou telle star ou homme politique, pourquoi pas, ne sont pas des amours qui passent vraiment par la connaissance de la personne en elle-même. C'est l'amour de l'image qu'ils véhiculent, du rêve qu'ils portent, du fantasme qu'ils incarnent. Mais ce n'est pas le vrai personne. Et donc il y a un vrai danger aussi pour nous de vivre une relation au Christ qui soit idolâtrique ou à Dieu qui soit idolâtrique, c'est-à-dire on aime une image qu'on a de lui, soit une image peut-être qu'on a de l'enfance, qui peut être positive, hein, qui ne peut pas forcément être mauvaise. Quand je dis idolâtrique, c'est mauvaise. Ça veut dire que ça ne correspond pas à ce qu'il est vraiment. Alors c'est dangereux parce que le jour où l'idole s'effondre, il n'y a plus rien. Et on peut vivre des crises très profondes. C'est la terre qui a peu de profondeur, où la semence lève vite dans la parabole des semeurs. Donc on se fait une idée facile et captivante pour nous. On a rencontré des gens, une personne qui a du charisme, on a été peut-être un week-end quelque part, et tout à coup, voilà. Alors ça lève d'un coup, mais si on ne prend pas les moyens d'enraciner cela plus profondément, eh bien quand le soleil se lève, nous dit le Seigneur dans Marc au chapitre 4, eh bien la plante brûle au soleil de l'épreuve. Jésus le dit souvent, hein, leur foi, il avertit les apôtres, hein, de la foi qui est une illusion, qui est une foi trop superficielle, qui ne tiendra pas la première épreuve. Il prévient ses apôtres de ce danger-là. Pourquoi? Pour qu'ils puissent très vite l'enraciner, entrer dans une recherche et une connaissance profonde de Dieu, pour y engager notre intelligence, notre volonté, notre vie, pour nourrir un amour vrai. Et c'est ce que veut Dieu. Avant d'être incarné, Dieu se donne à connaître par son peuple Israël, par son histoire et par sa parole. On connaît bien quelqu'un quand on vit des choses avec lui, pas seulement quand on lit des livres sur lui ou qu'on l'écoute. Il faut à la fois l'écouter et à la fois vivre des choses avec lui. C'est le principe même de la révélation divine que nous avons vu d'ailleurs dans notre séance, la première ou la deuxième séance des Fraternités Emmaüs. Dieu se donne à connaître à la fois par sa parole, par un discours, par un enseignement, mais aussi parce qu'il partage une aventure avec Israël, il partage une vie avec lui, avec elle. De même, dans les évangiles, il y a des parties qui sont des discours, des enseignements, et puis des parties qui sont des récits, qui racontent l'histoire d'une rencontre avec Jésus et un malade, une femme, des enfants, etc., une famille. Il est donc capital pour nous qui voulons prier, qui cherchons Dieu dans la prière, de nourrir cette connaissance. Et donc qui passera par les Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Avec plus particulièrement une attention aux prophètes, en commençant par Jérôme, par Moïse, et les grands prophètes. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, puis les petits prophètes aussi qui ont leur importance, Zacharie, Amos et tous les autres. Pourquoi? Parce que Pierre nous dit dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, comme vous avez raison de scruter la parole des prophètes jusqu'à ce que lève en vos cœurs l'étoile du matin, c'est-à-dire la rencontre avec le ressuscité. Et donc pour Pierre, la rencontre avec le ressuscité ne va pas d'abord se jouer dans la lecture ou la méditation des récits de la résurrection, ou des rencontres avec le ressuscité, plus exactement, mais dans la scrutation de l'Ancien Testament et notamment des prophètes. Et je pense que les uns et les autres ici, et moi-même, je peux vraiment l'attester que c'est vrai. Que c'est vrai. Saint Jérôme nous dit, ignorer les Écritures, ignorer l'Ancien Testament, et le Nouveau, bien sûr, mais pour Jérôme, il s'agit de l'Ancien d'abord, c'est ignorer Jésus-Christ. C'est là qu'il y a le paradoxe. On ne parle pas apparemment de Jésus dans l'Ancien Testament, et pourtant, pour le connaître, il nous faut l'étudier. C'est ce que le ressuscité lui-même indique comme chemin, puisque vous savez que pour se faire connaître aux pèlerins d'Emmaüs, il n'apparaît pas comme sur la Transfiguration, comme sur la montagne de la Transfiguration, blanc et brillant comme neige, mais il prend le temps d'expliquer, nous dit le texte de Saint Luc, dans Moïse, dans les prophètes et les psaumes, tout ce qui le concernait. C'est bien dans l'Ancien Testament que Jésus se fait connaître, en quelque sorte, aux pèlerins d'Emmaüs. N'avions-nous pas le cœur tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures, nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire qu'il s'agit de les travailler, de les comprendre, d'en comprendre le sens. Tout cela, c'est vrai, ça demande un peu de temps, ça demande de l'énergie, un peu, enfin. Et Jésus a passé du temps avec eux sur cette route pour leur expliquer cela. Une rencontre avec le Christ, une rencontre d'amour qui passe par la connaissance du Christ, la connaissance du Christ qui passe par la connaissance des Écritures avec le Christ. Lire les prophètes avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour y trouver Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il nous faut aussi lire les évangiles et nous les lire d'une manière justement qui cherche la rencontre, un peu comme on lit à travers les lignes une lettre de quelqu'un que nous aimons et que nous ne voulons pas avoir des informations venant de lui seulement, nous voulons le rencontrer dans son écrit, nous voulons nous rapprocher de lui par son écrit. Il y a cette disposition du cœur qui cherche l'être aimé à travers le texte. Voyez. Il ne s'agit pas du tout d'une étude superficielle, d'une étude ou même uniquement technique, bien sûr, ou scientifique, bien sûr. Ou même de se dire qu'est-ce que ça pourrait bien nous apprendre, ce texte, mais plutôt de le chercher lui, de chercher Dieu, de chercher le Christ, vraiment. C'est toi que je cherche, Seigneur. Ne me cache pas ta face, ce que dit le psaume 26. J'entends encore Jean-Paul II dire ça à Longchamp, à Paris, en 97, avec sa voix, déjà du vieux Jean-Paul II. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. C'était bouleversant parce qu'il le disait avec lui-même, il le disait avec son cœur, c'est lui qui le disait, quoi. C'était pas le psalmiste. C'est très beau. Voilà, donc chercher le Christ personnellement. Alors, en le cherchant, lui nous trouve. C'est un peu comme les enfants, tu me cherches, tu vas me trouver. Ça, c'est la merveille des Écritures, c'est très étonnant. Quand Jésus voit arriver Nathanaël, il dit, voilà vraiment un fils d'Israël sans détour, dont la foi est sans détour. Alors, Nathanaël dit, d'où est-ce que tu me connais? Comment tu scrutes mon cœur pour connaître ça? Et Jésus dit, je t'ai vu sous le figuier. Alors, vous savez, sous le figuier, ça veut dire, c'est une expression séménitique pour dire, je t'ai vu quand tu lisais les Écritures. On est sous le figuier, à l'ombre du figuier, parce que ça a des grandes feuilles larges, l'ombre du figuier, pour lire les Écritures. Du coup, d'ailleurs, j'ai planté un figuier au presbytère dans le jardin. Et j'ai mis un petit fauteuil à côté. Alors, le figuier, pour l'instant, il est haut comme ça, donc ça sera pour mon successeur, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pendant que tu lisais les Écritures sous le figuier, tu me cherchais dans les Écritures. Mais en fait, c'est moi qui regardais ton cœur. C'est moi qui te voyais. C'est moi qui scrutais ton cœur. Tu pensais me chercher et me trouver, c'est vrai, tu m'as trouvé. Mais moi aussi, je t'ai trouvé. Et ça va dans les deux sens. Quand vous cherchez à entrer, à pénétrer dans l'Évangile avec votre cœur, en essayant d'y trouver le Christ vraiment, eh bien en fait, c'est l'Évangile qui pénètre en vous. Et c'est le Christ qui vient en vous. C'est le Christ qui scrute votre cœur et qui vous connaît. Et alors, vous découvrez que la lettre de l'Évangile est écrite vraiment pour vous. Vous voyez, on dit ça parfois dans les retraites, tout ça, on dit, c'est Dieu qui vous parle. C'est vrai. Mais comment ça? Ça veut dire quoi? C'est vrai parce que dans la mesure où vous voulez rencontrer Dieu dans la lettre des Écritures, alors Dieu veut vous rencontrer lui aussi. Ça, c'est... Parce que Dieu ne nous viole pas, Dieu ne peut pas pénétrer en nous sans que nous-mêmes nous cherchions à le rencontrer. C'est impossible autrement. Dieu pénètre notre cœur dans la mesure où nous-mêmes nous lui ouvrons la porte, vraiment. Tout le problème est là, c'est de lui ouvrir la porte. Et ça se fait encore une fois progressivement, dans un exercice, dans une histoire qui aura des hauts, des bas, qui vont traverser plein de choses. C'est une histoire à deux, la relation au Christ, vraiment. Un soir, je connaissais bien un couple qui m'avait aidé autrefois dans ma paroisse à monter une école pour apprendre à faire oraison. Et ce couple me dit un soir après le dîner qu'ils ne faisaient jamais oraison ensemble, mais qu'ils faisaient oraison tous les deux. Donc, s'ils lisaient le texte ensemble, 50 ans de mariage, hein, autant d'oraison. Ils lisaient le texte ensemble et après, ils allaient faire oraison chacun dans leur coin. Et je trouvais ça magnifique parce que il me disait, mais je laisse l'autre dans son histoire avec son Seigneur. C'est une histoire à deux. C'est leur histoire. Et moi, comme couple, enfin, je laisse cela à mon conjoint. C'est lui qui fait son histoire. Voilà. On commence ensemble dans les Écritures, mais on poursuit chacun avec son Seigneur. Voilà. J'ai trouvé ça très beau. Et très juste aussi. Et c'est une aventure qui ne finit pas. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, finalement, c'est d'entrer dans le jardin et de commencer à marcher dans le jardin. Mais plus on entre dans le jardin, plus on visite le jardin, plus on s'émerveille de sa variété, de sa beauté. Et puis on découvre que ce jardin que l'on avait découvert, ce n'est qu'un minuscule petit carré de pelouse qui est inclus dans un jardin 1000 fois plus grand. Et puis quand on commence à découvrir ces perspectives immenses, on découvre que ces perspectives immenses sont elles-mêmes une minuscule partie d'un jardin encore 1000 fois plus grand. Et cela, ça commence sur la terre et ça ne finira jamais. Jamais. Au ciel aussi, nous irons, comme le dit, je ne sais plus qui, je crois que c'est saint Thomas, de découverte en découverte, de nouveauté en nouveauté, sans cesse. Mais c'est comme une locomotive, il faut autant d'énergie une locomotive de passer de 0 à 1 km heure que de passer de 200 à 300. C'est l'inertie, ça. Il faut vraiment... Voilà, peut-être avez-vous des questions sur ce que je viens de dire, sur donc l'oraison comme rencontre, les écritures comme lieu de la rencontre. Sur la manière concrète dont cette rencontre se fait, s'organise dans nos cœurs.
Cette façon de ouvrir la porte, elle ne peut se faire que, on ne peut ouvrir la porte que par la parole.
Oui. Ce qui ne veut pas dire.
Si vous êtes, comme devant une page blanche devant la parole, parce que vous avez la parole, mais c'est. Vous, ça. Moi, par exemple, ça peut aussi. Je lis la parole, mais c'est.
ça rentre
j'ai
pas.
Pas votre intelligence pour comprendre.
Oui.
Et je ferme mon parole.
C'est pas vraiment une question d'intelligence, parce que vous voyez, ou même d'éducation. J'ai pu faire ça il y a 2 ans, j'ai eu la chance de partir en retraite avec 150 personnes de la rue. Donc des personnes complètement démolies, avec leurs accompagnateurs, dans le cadre de l'association APA, Association pour l'amitié. Et puis Lazare, ça a été une expérience extraordinaire. Et donc, on a fait des petits groupes de partage des écritures, comme je fais toujours. Et j'ai été très exigeant avec lui, leur demandant justement d'entrer dans la compréhension du texte. Enfin, je leur ai longuement expliqué ça. Et ça a été magnifique. Ce n'est pas tellement une question de niveau universitaire, d'intelligence, même d'éducation, ou même de force psychique. Il me semble que c'est d'abord une question du fait que les écritures ne peuvent se recevoir sans la tradition. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas se recevoir seules. Il faut pouvoir y être un peu introduit, aidé, notamment par la communauté, je dirais, avec un grand C, qui peut prendre la forme d'un petit groupe biblique de partage, d'un groupe paroissial, d'un cours, je sais pas quoi, la catho, ou simplement d'une initiation par un livre qu'on lit, ou un tutoriel sur Internet. La manière la plus forte, la plus efficace, la plus profonde, c'est bien sûr de le faire en communauté de foi, c'est-à-dire dans un groupe paroissial, diocésain, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça demande d'être accompagné toujours, parce que les Écritures, elles ont toujours été données par Dieu dans un peuple qui l'interprète. Quand Esdras retrouve le rouleau des Écritures au fond du temple en ruine à la reconstruction, c'est le texte dans le livre d'Esdras qui rapporte ça, eh bien, alors, le peuple est dans la joie, on construit une estrade devant le temple en ruine, on convoque le peuple, l'un lit le rouleau, et le grand prêtre, je crois que c'est Esdras, qui explique au fur et à mesure les Écritures. D'emblée, et toujours dans la tradition juive, il y a toujours l'explication, ce que j'appelle la tradition, l'accompagnement, toujours. Quand saint Paul dit que la foi naît des Écritures, en fait, il ne dit pas des Écritures, il dit de la prédication. C'est-à-dire des Écritures expliquées, des Écritures accompagnées, si vous voulez. Toujours. Et c'est vrai que l'oraison personnelle avec les Écritures, elle va se préparer, par exemple, en faisant une retraite de 3 jours ou d'une semaine avec prêcher, où on va apprendre des choses sur les Écritures, sur la manière de prier, on va être enrichi là-dessus. On va nous aider, on va nous donner du goût à ça, on va justement nous donner des textes qui sont plus immédiatement perceptibles, donc c'est plus facile pour nous. C'est une manière de faire, voyez, autre qu'un groupe biblique. Mais c'est vrai que seul, on peut avoir, comme vous dites, c'est vrai, le blanc, quoi. Et surtout quand c'est au début, ben c'est très décourageant. Ça peut arriver après, quand on est plus expérimenté, bien, tous les textes ne nous parlent pas, parfois c'est difficile, enfin c'est normal. Mais on a des ressources pour dépasser ça. Quand ça commence comme ça, c'est vrai que ça peut être très décourageant. Donc là, il faut vraiment se dire j'ai besoin des autres et vous tourner vers une petite équipe paroissiale, par exemple l'Oasis, un jeudi sur deux, qui va toujours partir des Écritures et qui va, à partir des Écritures, avoir un enseignement. C'est une manière de faire paroissiale, mais il peut y avoir d'autres choses. Il y a pas mal de groupes déjà sur la paroisse qui, depuis des années, partagent les Écritures toutes les semaines, qui travaillent ensemble. Et...